Le Club des idées sur France Inter, en compagnie de Cécile Domas de Libération, d'Alexis Brézé du Figaro et de Laurence Luret de France Inter. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu pour nous le livre d'Umberto Eco, un livre posthume, Reconnaître le fascisme, qui est publié chez Grasset, Laurence.
Oui, Patricia, on profite de ce grand week-end pour prendre un peu de recul, faire un détour par ce petit texte d'Umberto Eco pour, comme son titre l'indique, Reconnaître le fascisme, 40 pages essentiel pour mieux nous éclairer. Sans doute est-il bon, à 2 semaines des élections législatives, de rappeler avec ce livre que le fascisme a plus d'un visage, car dans le tourbillon de notre monde, il peut ressurgir sous d'autres habits. Alexis Brézet pour Le Figaro. Que vous inspire ce témoignage d'Umberto Eco sur son enfance, lui qui a connu, dit-il, petit garçon, les SS, les fascistes et les partisans italiens?
Oui, c'est un long article, c'est un petit livre, tout à fait agréable à lire, bien écrit et plaisant, qui est très marqué, vous avez raison de le dire, par l'aspect italien, l'enfance italienne d'Umberto Eco, donc qui part de ce qu'il a vécu du fascisme italien pour essayer d'en tirer des généralités sur ce que seraient, à ses yeux, les invariants d'un fascisme éternel, concept qui est un peu compliqué à expliquer. À partir de là, moi, je suis partagé parce que c'est agréable à lire. Il est à la fois, me semble-t-il, par certains aspects assez banal, parce que donc dans ces fameux invariants du fascisme, il y a tout un tas de choses qui sont assez vraies, mais pas d'une grande originalité. Enfin, je veux dire, c'est pas Hannah Arendt, c'est pas...
C'est plus facile à lire aussi, hein, vous
oui,
avez remarqué.
Oui, c'est certes plus facile, mais en même temps, c'est pas très nouveau. Il nous explique tout un tas de choses sur le fascisme, parce qu'il y a un peu un côté petit cours pour élèves de terminale. Bon, donc ça, c'est pas désagréable, mais c'est pas très nouveau. À côté de ça, moi, il y a, me semble-t-il, un aspect assez prophétique, puisque ce texte est écrit en 95, sur le fascisme d'aujourd'hui, fascisme dont, me semble-t-il, on ne veut pas toujours parler, c'est du fascisme islamiste. Et si on applique ce livre à l'islamo-fascisme, on se rend compte à quel point c'est absolument pertinent.
Cécile Domas, pour Libération. Alors, même question.
Alors, avant d'aller sur l'islamo-fascisme, je pense qu'il faut revenir à l'objet premier du texte, qui est les fascismes. Alors, certes, c'est pas une théorie politique, mais il ne l'a pas écrit en comme tel. Et l'intérêt du livre, c'est effectivement que c'est un témoignage sensible. Et je pense que pour les jeunes générations, c'est intéressant de le lire, et que, en plus, ça se lit facilement. Les critères qu'il pose sur le fascisme sont, je pense que nombre d'historiens les remettraient en cause, puisque l'idée d'un invariant fascisant n'existe pas vraiment en histoire. Mais il est intéressant sur le plan émotionnel, et notamment sur ce début du texte où il raconte comment lui, le grand Umberto Eco, à l'âge de 10 ans, a écrit une rédaction où on lui demande « Allez-vous, seriez-vous prêt à mourir pour Mussolini ?» Et il dit « Oui ». Et il a cette ironie qui fait tout le sel du texte, et il dit « J'étais pourtant un enfant très éveillé ».
Très éveillé.
Donc on voit bien que ce texte, par sa modestie et en même temps par son écriture qui est très belle, montre que, en fait, le fascisme, enfin, en tout cas, les germes fascisants, on peut y être, à un moment ou à un autre, attiré. Et donc, c'est important de le rappeler.
Alors, venons-en à aujourd'hui, avec cette phrase d'Umberto Eco, « Même s'il y eut un seul nazisme, on peut jouer au fascisme de 1000 façons sans que jamais le nom du jeu, J-E-U, ne change », écrit-il. Alors, quels sont les signes actuels que vous voyez?
Non, mais sa thèse, c'est de dire le fascisme est un concept flou. Il dit que c'est un totalitarisme fuzzy, qui est flou et imprécis, parce qu'il peut être à la fois capitaliste, anticapitaliste, avant-gardiste en art, c'est le futurisme italien, ou tout à fait réactionnaire, etc. Donc il dit, mais il y a quand même des invariants, des choses qu'on retrouve, et notamment ces invariants éternels d'un fascisme. Il appelle ça l'urfascisme. Alors on me dit, qu'est-ce que ça veut dire que l'urfascisme? L'ur, c'est le premier continent qui est apparu il y a 3 milliards d'années. Donc c'est sous-entendre l'idée qu'il y a une espèce de réalité du fascisme qui daterait de 3 milliards d'années, en tout cas de la naissance de l'humanité. Bon, historiquement, c'est quand même un peu curieux, philosophiquement, c'est curieux, c'est plus intéressant d'un point de vue littéraire, je suis d'accord. Et donc à partir de là, il va prendre un certain nombre de critères, il va dire, le fascisme, c'est par exemple, qu'il ne peut pas y avoir de progrès dans la connaissance et le culte de la tradition. Ce qui est intéressant, ce qui est contestable aussi, parce qu'en fait, le fascisme, c'est aussi la volonté de créer un homme nouveau. C'est aussi une volonté de faire table rase. Et quand il dit les futuristes italiens soutenaient Mussolini, c'était bien ça. Donc, mais bon, il va prendre 14 critères, et ces 14, il va dire, dès qu'il y a un seul critère qu'on retrouve, ça veut dire qu'on est dans une société qui est potentiellement fasciste.
Cécile Domas, vous êtes d'accord avec ça?
En fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces critères, qui sont comme je vous le disais, je pense que les historiens, eux, disent que définir le fascisme, en fait, c'est toute la difficulté et que c'est l'histoire qui l'écrit. Et qu'en gros, en fait, on se rend compte qu'un gouvernement est fasciste quand il est au pouvoir. Donc, c'est un peu embêtant. Et toute la difficulté, et c'est un peu tard. Et que toute la difficulté, c'est effectivement de détecter le fascisme parce qu'il a plusieurs visages et qu'il n'a pas en plus de texte fondateur, c'est une idéologie extrêmement mouvante. L'intérêt du texte d'Umberto Eco, c'est que dans les 14, alors on n'est pas obligé de reprendre à la lettre les 14 critères, mais il y en a un qui est intéressant, c'est celui de la frustration sociale qu'il emploie et qui, à mon avis, aujourd'hui, peut être, quand on est citoyen, qu'on va voter, se dire, est-ce que tel ou tel leader politique qui joue sur la frustration sociale, est-ce que je me méfie ou pas?
Alors justement, j'aimerais avoir votre avis rapidement à vous deux sur une phrase d'Umberto Eco qui conclut ce livre en citant une phrase de Roosevelt en 1938. « J'ose dire que si la démocratie américaine cessait de progresser comme une force vive, cherchant jour et nuit par des moyens pacifiques à améliorer la condition de nos citoyens, la force du fascisme s'accroîtra dans notre pays. » Votre avis, Alexis Moiset?
Mon avis, moi je voudrais revenir un instant sur ce que je disais sur l'islamo-fascisme.
Oui.
Remplacer dans ce livre « fascisme éternel » par « islamisme, islamo-fascisme, fasciste, islamisme, tout ce qu'on veut, concert, qui est contesté d'ailleurs. Mais dites, la vérité a été posée une fois pour toutes, on n'a pas à l'interpréter. C'est le Coran. Dites, les héros du fascisme éternel rêvent d'une mort héroïque. C'est les martyrs. Dites, le fascisme éternel, il n'y a pas de lutte pour la vie, plutôt une vie vouée à la lutte. C'est le djihad. Vous pouvez prendre chacun des points, et il n'y avait évidemment pas pensé, il écrit ça en 95. Vous reprenez chacun des points, et tous, sans exception, on pourrait prendre les 14, s'appliquent aujourd'hui à ce qu'est cette idéologie salafiste, wahhabite, etc., les frères musulmans, qui est à l'œuvre aujourd'hui dans nos sociétés.
Alors, si on fait ça, le problème, c'est que dans ce sens-là, tout peut être fascisant. Voilà. Donc, et le problème de ce mot, c'est qu'en fait, il est utilisé à tort et à travers, et donc il en perd totalement sa signification. Et la difficulté, c'est effectivement de lui trouver une définition. Mais justement, la définition, elle n'existe pas vraiment. Donc, je pense que de dire
à travers ces critères,
islamo-fascisme,
oui, je
c'est
sais,
aussi
mais
idiot que
je
de dire que
ne veut pas
Le Pen,
parce
que le FN
se dit
est un parti
c'est stigmatisé,
fascisant.
Etc.
Voilà.
Mais vous prenez
mais vous avez
l'intolérance
pas bien lu
aux mœurs sexuelles différentes. Même
vous
chose.
Vous relisiez Umberto Eco.
Comment? Non, pas du tout. C'est absolument frappant. Relisez-le et lisez-le avec cette grille de lecture-là. Vous verrez, tout colle. C'est incroyable.
Laurence Luret, votre lecture de Reconnaître le fascisme d'Umberto Eco?
Eh bien moi, Patricia, je dirais que c'est un petit livre à ne pas manquer, facile et très agréable à lire. 40 pages écrites par le philosophe et écrivain italien Umberto Eco, s'il vous plaît, disparu il y a un an, à l'origine, pour son discours d'avril 95 à l'Université de Columbia. Alexis Brézé en disait un mot tout à l'heure, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération de l'Europe. Alors vous allez me dire, pourquoi donc parler d'un texte qui a 22 ans? Eh bien, parce que, comme le précisent les éditions Grasset, qui ont eu l'heureuse idée de republier cette conférence, dans le contexte actuel qui voit ressurgir en France, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, des populismes qui deviendront peut-être autant de fascisme en civil, ces pages sont une contribution indispensable au débat public. Et c'est vrai qu'en lisant Reconnaître le fascisme, on se rend compte qu'on a sans doute tort de penser que le fascisme est réservé aux livres d'histoire, comme s'il était bel et bien derrière nous, ou tort encore d'employer ce mot pour tout et n'importe quoi. Umberto Eco fait une démonstration magistrale que le fascisme a plus d'un visage, qu'il peut ressurgir sous de nouveaux habits, car il a des constantes de fond. C'est ce qu'il appelle l'ur-fascisme, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, matrice originelle, d'où naissent les dictatures. Il en détaille 14 caractéristiques qui n'ont pas nécessairement besoin d'être toutes réunies pour que le fascisme s'installe, précise-t-il. Une ou deux suffisent. Alors j'en cite quelques-unes. Culte de la tradition, refus du modernisme, crainte des différences, obsession du complot, glorification du peuple trahi par ses représentants. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. Et si le fascisme nouveau avait un nouvel habit, il pourrait donc peut-être être post-moderne ou islamique ou post-démocratique. Tout est possible. Umberto Eco nous lègue alors ce précieux avertissement, je je cite, « Chaque fois qu'un politicien émet des doutes quant à la légitimité du Parlement parce qu'il ne représente plus la voix du peuple, on flaire l'odeur de l'urfascisme. » Voilà bien, chers auditeurs, à 2 semaines des législatives, une phrase à méditer.
Et le texte est donc publié, vous l'avez dit, chez Grasset. Merci Laurence Luret, Cécile Domas et Alexis Brézé. Et à la semaine prochaine.
À dimanche.
France Inter, le 6-9 du week-end.